suis fier d'avoir eu le meilleur taux pour mon crédit conso.
C'est quoi ces photos dans le salon?
Ah.
T'as remplacé notre photo de mariage par des photos de toi à la banque postale. Toi devant le bureau de poste, toi en selfie avec un conseiller.
Normal, à la banque postale, j'ai trouvé le meilleur taux pour notre crédit conso. Alors oui, j'en suis fier.
Le meilleur taux?
Oui, je te le garantis, j'ai eu le meilleur taux.
Mais en fait, il est pas mal ton conseiller.
Jusqu'au 25 juin 2016 à la banque postale, profitez d'une offre spéciale sur les prêts personnels auto, travaux et projets. Pour plus d'informations, renseignez-vous vite en bureau de poste sur labanquepostale.fr ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute, plus prix de l'appel.
La banque postale.
Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la banque postale financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La banque postale intermédiaire de crédit du prêteur.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Semaine spéciale, révise ton bac au cœur de l'histoire. Franck Ferrand nous parle aujourd'hui du général de Gaulle. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le programme de terminale est riche, un petit peu complexe, disons-le. Alors après la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, à travers l'exemple du débarquement lundi, et hier les événements du 6 février 34 vus par la presse de l'époque, je vous propose cet après-midi pour illustrer le chapitre sur la Chine et le monde, d'évoquer ce coup de tonnerre diplomatique qu'a été en 1964. La reconnaissance de la Chine populaire par la France gaulienne. Et pour corriger la copie, si je puis dire, j'ai demandé à Rémi Koffer de se joindre à nous.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous reviendrez sur les origines de l'expression « les 30 glorieuses ».
Voilà, une expression aujourd'hui reprise à tout bout de champ et qui faisait référence aux 3 glorieuses, bien entendu. Pour le moment, nous allons nous immiscer dans les relations Mao-De Gaulle.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes le 27 janvier 1964 et quelques lignes seulement vont faire trembler les chancelleries du monde entier ou en tout cas les faire frémir. Je cite le communiqué officiel qui est publié par le Quai d'Orsay. Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine ont décidé d'un commun accord d'établir des relations diplomatiques. Ils sont convenus à cet effet de désigner des ambassadeurs dans un délai de 3 mois. Voilà, c'est aussi sobre, aussi simple que ça en apparence. Décision historique évidemment, le général de Gaulle sera bien le premier chef d'État d'un pays occidental à établir des relations diplomatiques avec la Chine communiste, avec la République populaire de Chine. Premier pays occidental à nommer un ambassadeur de plein exercice à Pékin depuis 1949, depuis la prise de pouvoir par les communistes en Chine. Il y avait eu 20 ans de guerre civile, rappelez-vous, et Mao Zedong avait donc proclamé cette République populaire de Chine avec beaucoup d'inquiétudes dans toutes les chancelleries de l'époque. Fallait-il ou non reconnaître le nouveau gouvernement, d'autant plus qu'il y a un autre gouvernement nationaliste chinois à Formose, comme on disait à l'époque, à Taïwan. Nous en dirons un mot dans un instant. Il va donc falloir attendre 15 ans pour que vienne cette reconnaissance sous l'impulsion du général de Gaulle. Reconnaître diplomatiquement la Chine de Mao, c'était très difficile. Et ça signifiait sans doute pour la France assumer son retour, en tout cas assumer le retour d'une France rénovée, débarrassée de ses questions coloniales sur la scène internationale et notamment en Asie. Manifestation évidente de la politique d'indépendance nationale prônée par le général de Gaulle, cette décision a fait grincer des dents un peu partout dans le monde. N'oubliez pas l'hostilité générale au régime communiste de Mao. Les Américains notamment soutiennent bec et ongle le gouvernement nationaliste du maréchal Chiang Kai-shek, donc le gouvernement de Formose. La décision de nouer des relations diplomatiques avec cette république communiste va puiser dans les principes essentiels de la politique étrangère gaullienne, disons-le. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il en a été du point de vue de la Chine. Du point de vue de la France, c'était une volonté profonde et ancienne du général de Gaulle. Les historiens Sharon Elbaz et Philippe Houlmont l'expliquent, je le cite. C'est avec la Chine de toujours que le général de Gaulle entend établir des relations régulières sur un plan normal, autrement dit diplomatique. En effet, pour lui, Je cite, avant d'être communiste, la Chine est la Chine. Ça, c'est une phrase bien gaullienne. C'est-à-dire un peuple riche de plusieurs centaines de millions d'habitants, à la civilisation plurimillénaire, installée sur un territoire très vaste avec un potentiel de développement gigantesque. Il faut tenir compte de cette réalité nationale profondément enracinée dans la géographie, l'histoire et la culture. Et d'abord, il faut s'efforcer de la connaître, tant la distance est grande alors entre la France et le monde chinois. Cette idée a été longuement mûrie. Il faut vous dire que en 1957, le général de Gaulle avait reçu l'ouvrage que lui avait envoyé Edgar Faure, qui s'appelait « Le serpent et la tortue », qu'avait écrit Edgar Faure après un séjour de plusieurs semaines en Chine populaire. Et il avait répondu, Edgar Faure le raconte, « À mon retour, j'ai publié donc cet ouvrage, nous dit Edgar Faure, dans lequel je suggérais qu'il serait bon pour la France de reconnaître la Chine. Je pensais en effet qu'il était absolument grotesque que la plupart des grands pays ignorent purement et simplement ce continent. J'ai envoyé le livre au général de Gaulle et le général m'a répondu de sa main, comme il le faisait toujours, une lettre assez longue, me disant combien il avait été intéressé par cette lecture et que mon idée d'une reprise des relations diplomatiques avec la Chine lui paraissait intéressante. » Et Edgar Faure ajoute, mais il concluait sur le ton un peu découragé qui était le sien à cette époque, évidemment le général est encore dans sa traversée du désert à ce moment-là, en disant que tout cela ne pouvait pas être tenté utilement puisqu'en tout état de cause, il n'y avait pas d'État pour l'instant en France. C'était en tout cas le point de vue du général de Gaulle sur la 4e République. Alors, 1958, retour de Gaulle aux affaires, et immédiatement, le général cherche à s'informer sur une possible initiative. Il va d'ailleurs se tourner vers Edgar Faure. La conjoncture n'est pas favorable, hein, puisqu'on est en pleine guerre d'Algérie. Si nous avions envoyé un ambassadeur en Chine, explique Edgar Faure, il aurait pu être exposé sur ce terrain à quelques rebuffades, et il aurait couru le risque de se retrouver un jour face à face avec un représentant du FLN en Chine. Donc jusqu'en 62, disons que la France est un peu empêtré dans les derniers soubresauts de son processus de décolonisation. C'est seulement après les accords d'Évian, donc en 1962, que le général de Gaulle retrouve une certaine liberté d'initiative sur la scène internationale. Disons aussi, et nous développerons ça dans un instant, que du point de vue des Chinois eux-mêmes, leur rupture avec l'URSS de Khrushchev en 1959, du fait de l'amélioration des relations américano-soviétiques, c'est ce qu'on appelle la coexistence pacifique avec l'Ouest, défendue par Moscou, mais aussi et peut-être surtout du fait des ravages du grand bond en avant prôné par Pékin et qui a écœuré littéralement Moscou, cette rupture au sein même du monde communiste a poussé la Chine à chercher de nouveaux soutiens internationaux et pourquoi pas dans cette nouvelle France du général de Gaulle qui voulait s'abstenir de tout alignement à l'Est ou à l'Ouest. Autant dire que d'une certaine manière, pour un rapprochement franco-chinois et pour une reconnaissance officielle de cette nouvelle République populaire, le moment, le dossier était mûr.
De la bande originale du film de Philippe de Broca, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, une musique composée par Georges Delerue. Restez avec nous sur Europe 1. Franck Ferrand vous aide à réviser le bac d'histoire avec cet événement en 1964 quand le général de Gaulle reconnaissait officiellement la Chine. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h
sur Europe 1.
Et pour cette semaine spéciale consacrée aux révisions du bac, pour cette épreuve d'histoire, Franck Ferrand, aujourd'hui vous nous parlez de ces relations entre la France de Charles de Gaulle et la Chine de Mao. Nous étions en 1964.
Oui, dans le programme de terminale, c'est la Chine et le monde qui se trouvent être au cœur des préoccupations des enseignants et donc de nos chers candidats et candidates. Alors nous allons dans un instant venir au point de vue chinois avec Rémi Koffer. Pour l'instant, je vous fais entrer, si je puis dire, dans les coulisses diplomatiques qui ont abouti à cette reconnaissance par la République française de la République populaire de Chine, donc de la Chine de Mao. Évidemment, à partir des accords d'Évian, dès 1962, les observateurs ont vu que des missions françaises, missions politiques, mais surtout des missions économiques, disons-le, se sont succédées en Chine. On voyait des chefs d'entreprise qui débarquaient dans cette Chine communiste, vous imaginez, la Chine des costumes Mao et des vélos. Ça a fait parler, bien entendu, et d'emblée, on voyait bien qu'il se passait quelque chose, qu'une normalisation des relations diplomatiques était en gestation. La Chine, de son côté, je vous l'ai dit, recherche de nouveaux partenaires en Occident. Alors, l'homme qui va être au cœur de toute cette affaire, on pense toujours à Alain Perfit à cause de son célèbre ouvrage, n'est-ce pas, Quand la Chine s'éveillera, et puis ses grandes missions et ses enquêtes en Chine. Mais celui qui était au cœur de cette affaire, c'est Edgar Faure, grand homme de la 4e République, qui en 1963 est donc reçu par le général de Gaulle. Le président s'inquiète de savoir si les circonstances sont désormais ou non favorables à la reconnaissance de la Chine. Et voilà ce que lui répond Edgar Faure. Je pense que tout est changé. Premièrement, vous êtes délivré de l'hypothèque algérienne, ce qui signifie que vous n'avez pas à redouter de déconvenues dans l'hypothèse d'une ouverture diplomatique vers Pékin. En deuxième lieu, les Chinois eux-mêmes, précise Faure, sont dans une situation difficile à cause de leur friction avec les Soviétiques. Et, en troisième lieu, vous avez donné déjà de tels signes d'indépendance vis-à-vis des Américains que, un de plus ou de moins, cela ne sera pas tellement sensible, dit Edgar Faure. Et c'est vrai que le général de Gaulle avait fait avaler à Washington un certain nombre de couleuvres, à commencer par l'implantation des bases américaines en France. Mais enfin, ça nous entraînerait dans un autre sujet. Alors, au cours de cette même conversation, Edgar Faure signale au général de Gaulle qu'un voyage à Pékin serait le bienvenu, bien entendu, avec la volonté de se rendre en Chine, en Russie, pour étudier le fond du conflit sino-soviétique. Il aimerait bien qu'on lui confie une mission, Edgar Faure. Et le général lui dit « Oui, vous irez en Chine, mais vous irez comme mon représentant ». Et il va lui donner une lettre d'accréditation officielle. Ça, c'est un pas décisif, bien entendu. La visite ne pouvant pas rester secrète, il faut essayer de la banaliser le plus possible. Alors, on va faire passer Edgar Faure par le Cambodge, puis ça c'est à l'aller, et puis au retour par l'Inde via la Birmanie, pour essayer de noyer le poisson, si je puis dire. Le but, c'est que l'objet réel de la visite, c'est-à-dire Pékin, n'apparaisse pas trop. Le 18 octobre 1963, Edgar Faure, accompagné par sa femme Lucie, va donc arriver en Chine où il est reçu, vous pouvez l'imaginer, avec tous les honneurs. Il rencontre le Premier ministre, Zhou Enlai. Il a déjà eu l'occasion de suivre la politique française, ce Zhou Enlai, en faisant la connaissance de Pierre Mendès France, président du Conseil au moment des négociations de Genève, qui avait mis fin à la guerre d'Indochine en 1954 et où la Chine avait joué un rôle de modérateur, d'ailleurs très intéressant. Il y a entre Zhou Enlai et Edgar Faure 6 séances de travail, entrecoupées évidemment de banquets à la chinoise, de grandes visites sur un certain nombre de sites touristiques, etc. On mobilise les enfants des écoles. Bref, il y a déjà quelque chose qui fait penser à une visite officielle. On rédige un protocole de travail. Tout ça s'achève à Shanghai, où Edgar Faure va être reçu par Mao en personne. Et au total, il aura quand même passé en Chine 2 pleines semaines. Quand il rentre en France en novembre 63, il se rend à l'Élysée, bien entendu. Il arrive à l'Élysée, ça ne s'invente pas. Le 22 novembre 63, il attend dans l'antichambre et le général de Gaulle le fait entrer dans son bureau alors qu'on vient juste d'apprendre l'assassinat du président Kennedy à Dallas. Donc vous imaginez qu'on a l'esprit ailleurs, si je puis dire. Et le général de Gaulle, qui est un incroyable diplomate, c'est un aspect sur lequel on n'a peut-être pas suffisamment insisté. De Gaulle confie à Edgar Faure qu'après tout, il va essayer de profiter de son voyage à Washington pour les obsèques du président Kennedy, bien entendu, les obsèques du président assassiné, afin de sonder l'équipe Johnson, la nouvelle équipe qui est en train de s'installer, sur sa réaction éventuelle à une normalisation des relations françaises avec la Chine. Quoi qu'il en soit, la décision du général à ce moment-là est arrêtée. Le 8 janvier 64, à l'Élysée, Conseil des ministres, et là, pour la première fois, le ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, déclare « Une étape encore plus importante va être franchie dans nos rapports avec la Chine de Pékin. » Et Alain Perfit note dans ses carnets « Avoir la surprise de presque tous les ministres autour de la table, je crois... » Bien qu'il ne se doutait de rien, dit Perfit. Alors de Gaulle fait un tour de table, comme il le faisait généralement, il répond aux sceptiques, il laisse parler son premier ministre, Georges Pompidou, et voilà qu'il conclut. Et la conclusion du général de Gaulle, à mon avis, est un modèle de point de vue diplomatique. « Le fait chinois est là, dit de Gaulle. C'est un pays énorme. Un jour ou l'autre, peut-être plus proche qu'on ne croit, la Chine sera une grande réalité politique, économique et même militaire. Or, elle meurt d'envie d'être reconnue par nous. Elle ne le cache pas. Les Soviets sont devenus ses adversaires et les États-Unis le sont restés. Elle ne voit aucun autre interlocuteur que la France. C'est pour la Chine une réalité et même la seule. » Magnifique sortie au Conseil des ministres. Vous aurez compris que la décision maintenant est prise. Et c'est à la fin de janvier 64 que le général de Gaulle, ou plus exactement son gouvernement, va reconnaître officiellement la Chine continentale.
La reconnaissance de la Chine par le général de Gaulle, c'est le sujet que vous propose de réviser aujourd'hui. Franck Ferrand, vous pouvez bien sûr poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Vous pouvez réagir à cette émission si vous êtes en train de réviser en ce mercredi après-midi. N'hésitez pas, rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
Et cet après-midi, dans le cadre de cette semaine spéciale révision du bac, Franck Ferrand, on revient en 1964 quand Charles de Gaulle reconnaît la République populaire de Chine, une décision historique.
Et oui, une décision qu'il faut préparer, notamment du point de vue de l'opinion. Alors, il y a un journal qui sert à ça à l'époque, c'est le Figaro, bien entendu. Edgar Faure va donner une interview au Figaro le 9 janvier, donc au tout début de cette année 64, et il livre un certain nombre d'indications retirées de son récent voyage en Chine, entrepris, précise-t-il, avec l'approbation des plus hautes autorités françaises, comprenne qui pourra. Et Edgar Faure exprime son souhait de voir débloquer cette espèce d'impasse dans laquelle se trouve la diplomatie occidentale à l'égard de Pékin. Les chancelleries ont déjà compris depuis un petit moment, inutile de vous dire. Le département d'État américain continue de condamner fermement toute forme d'acceptation du communisme chinois. En tout cas, ça c'est pour la galerie, hein, officiellement. Paris va néanmoins franchir le pas. Donc je vous l'ai dit, le 27 janvier 1964, avec ce fameux communiqué, ce bref communiqué, la décision historique de Paris. Coup de tonnerre, on est en pleine guerre froide quand même, hein. Ça sème le trouble dans le camp occidental. Le général de Gaulle, lui, est convaincu d'avoir raison, comme souvent, et il prédit que la décision des Français sera imitée dans les 10 ans à venir, notamment par les Américains, dit-il. Et c'est vrai, puisque c'est en 72 que les Américains vont faire la même chose, donc moins de 10 ans plus tard. Paradoxalement, selon l'Express de l'époque, ce rapprochement pourrait être très utile aux États-Unis. C'est Thomas Lenoir qui l'écrit dès janvier 64, je le cite, « En dépit des protestations des États-Unis, mais avec l'approbation du Japon et du Canada, la France a aussi agi en éclaireur pour le compte de ces mêmes États-Unis. Elle a révélé la possibilité de rapports avec Pékin sans rupture avec Formose. » C'est toute la question de la Chine nationaliste. Nous allons y revenir dans un instant. Et le président Richard Nixon, ancien président au moment où il écrit son ouvrage « Leader », il parle de ce long développement. Il consacre plusieurs pages à cette influence du général de Gaulle sur la diplomatie mondiale de l'époque et sur les discussions qu'il a eues lui-même et qui l'ont convaincu d'aller au bout du rapprochement sino-américain. Le 31 janvier 64, 4 jours après l'annonce, le général de Gaulle profite d'une de ses célèbres conférences de presse, qui est consacrée en l'occurrence aux institutions, pour commenter sa décision. « Il n'y a, dit-il, dans cette décision rien qui comporte la moindre approbation à l'égard du système politique qui domine actuellement la Chine. La France reconnaît simplement le monde tel qu'il est. » Les responsables politiques chinois passent outre à cette très grosse réserve du président français et le chef de la révolution chinoise, Mao, à plusieurs reprises, va exprimer son regret de ne pas pouvoir rencontrer le général de Gaulle. Et finalement, vous savez que le général meurt en 1970 et donc il n'y a pas eu de rencontre entre de Gaulle et Mao. C'est d'ailleurs une rencontre qui aurait sans doute beaucoup, beaucoup déplu à Chiang Kai-shek, au régime national. Là pour le coup. Cette reconnaissance diplomatique n'en sort pas moins la Chine de son isolement. C'est une brèche qui est causée entre les deux blocs. On avait jusqu'alors un monde totalement rigide et bipolaire, et là le général de Gaulle est en train de bouleverser un peu la donne, disons-le. Évidemment, va surgir très bientôt la révolution culturelle de 1966 qui pendant 10 années va enfermer la Chine dans cet épisode meurtrier extrêmement dramatique. C'est une grosse déception pour Paris, il faut le dire. Les rapports sont très mauvais entre Pékin et Paris à cette époque. Or, le général de Gaulle meurt pendant la révolution culturelle. Il n'empêche que son calcul à long terme aura été le bon, probablement. Il a permis une évolution considérable de la perspective en Asie. On a donné enfin une place importante à ce pays continent, qui était la Chine, même communiste. L'acte du général de Gaulle conserve une espèce d'aura dans la mémoire chinoise. Et vous savez qu'actuellement, quand un ambassadeur de Chine est nommé à Paris, la toute première chose qu'il fait, c'est de se rendre à Colombey. On a conservé en Chine une très grande déférence envers le général de Gaulle. Et au moment des commémorations, là, en 2014, pour le 50e anniversaire de la reconnaissance de la Chine populaire par Paris, on a fait toutes sortes de célébrations, etc. En Chine, on peut dire que 50 ans, un demi-siècle plus tard, cet acte diplomatique fort a laissé des traces très importantes en France, en Occident sans doute, mais en Chine, alors là, oui, certainement. Bonjour Rémi Coffert.
Bonjour.
Nous allons, avec vous qui connaissez la Chine comme votre poche, nous allons revenir bien entendu sur toute cette affaire et nous allons essayer de voir ce qui se passait du point de vue des Chinois.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cette année, au programme de Terminal en histoire, il y a la Chine et ses relations internationales. La Chine et le monde depuis 1949. Nous en parlons donc aujourd'hui avec votre invité, Franck Ferrand. Vous recevez Rémi Coffert, journaliste et historien et auteur du Siècle des Quatre Empereurs, paru chez Perrin.
Il faut que nous soyons particulièrement pédagogiques cette semaine, Rémi Coffert. Disons clairement que cette reconnaissance officielle et cet envoi d'un ambassadeur à Pékin interviennent exactement entre les deux grands moments maoïstes, si je puis dire, de cette période, c'est-à-dire le grand bond en avant de la fin des années 50 et la révolution culturelle des années 60. Il faut peut-être dire un mot de ces deux grands programmes.
Alors, jusqu'au moment du grand bond en avant, c'est Mao Tse-tung qui a tous les leviers en main. Le grand bond en avant, c'est son idée, c'est une forme de communisation absolument intégrale avec les communes populaires, les choses de ce genre, et ça aboutit à une terrible, épouvantable famine.
Alors on parle, nous, de technocratie parfois, mais là, c'est la technocratie poussée à son extrême absolu. C'est-à-dire que on gère les peuples et on gère la politique comme si c'était des données abstraites, et on voit le résultat.
Exactement. Et on collectivise toutes les terres, donc les paysans n'ont plus d'intérêt à collectiviser. C'est effarant. Dans les communes populaires, tout le monde est en uniforme, et même chacun est tenu d'apporter son mobilier individuel, et on peint toutes les chaises de la même couleur, toutes les tables de la même couleur. C'est effrayant. Mais ce qui est encore plus effrayant, ce sont les 40 millions de morts qui n'ont pas été voulus par Mao. Il y a des morts qu'il a voulu, mais pas celle-ci. Mais 40 millions de morts de faim. Donc, Ce qui se passe à l'intérieur de la classe dirigeante chinoise de l'époque, c'est qu'on va écarter un petit peu Mao, qui reste le grand dirigeant.
Gentiment à la retraite.
Oui. Pas à la retraite, mais un peu à l'écart.
L'écart, oui.
Et des gens comme Liu Shaoqi, et même un peu Deng Xiaoping, participent à sa mise à l'écart. Donc, il y a un espace devant eux. Deuxième chose, à l'époque de, si on revient en arrière, à l'époque de Mao Tse-tung, après la mort de Staline, Mao n'a pas accepté la déstalinisation qui a été prônée et mise en œuvre par Nikita Khrushchev, le premier secrétaire du Parti communiste soviétique. Et il refuse la déstalinisation et ça va entamer le processus qui va conduire à la rupture sino-soviétique, qui n'est pas encore totale au moment de la reconnaissance de la République populaire de Chine par la France, mais qui est quand même bien engagée.
C'est-à-dire
on s'envoie, on s'appelle de noms d'oiseaux, et à ce moment-là, ça ouvre cet espace dans lequel le général de Gaulle va s'engouffrer, puisque, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le but diplomatique du général de Gaulle, c'est de faire échapper la France à la logique des blocs.
C'est ça. C'est-à-dire, en gros, ni Washington, ni Moscou.
Exactement. Et les Chinois ont justement, maintenant qu'ils ne sont plus rivés à Moscou comme auparavant, eh bien, ils ont la même idée. Se détacher de la logique des blocs. Donc, il y a un intérêt objectif qui lie les deux parties, la partie française et la partie communiste chinoise. Mais il n'y a pas que la Chine communiste. Il y a, vous l'avez rappelé tout à l'heure,
la Chine nationaliste.
Taïwan,
oui.
Là où Chiang Kai-shek, ayant perdu la guerre civile, s'est réfugié dans cette île de Taïwan, qu'on appelait effectivement, vous l'avez dit, Formose à l'époque. Et là-bas, il prétend être le seul à représenter la vraie Chine. C'est-à-dire que vous avez deux États chinois, mais la Chine nationaliste possède encore le siège à l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU.
Et voilà, c'est-à-dire que les Américains ne la considèrent comme la seule Chine, et n'oublions pas que Chiang Kai-shek a participé à la Seconde Guerre mondiale, et que le général de Gaulle le considère comme un allié et un fidèle. C'est compliqué, évidemment. Hein.
Bien sûr, parce que on peut rappeler qu'effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, Chiang Kai-shek maintient la Chine dans la guerre contre les Japonais. Le général de Gaulle envoie des représentants, le professeur Escara, rencontrer Chiang Kai-shek, établir des liens entre la petite France libre et la Chine nationaliste assiégée par les Japonais. Donc c'est un mauvais moment pour les deux parties que se nouent ces premiers contacts. Et puis en 43, le général va envoyer un délégué permanent auprès de Chiang Kai-shek à Chongqing, où Chiang Kai-shek est la ville de guerre de Chiang Kai-shek. Il envoie le général...
Au cœur de la... On peut dire que là on est au cœur du continent. Hein.
Oui, tout à fait, là où il s'est replié sous la pression militaire des Japonais. Et il envoie le général Peshkov, qui est un personnage absolument étonnant. Le général Peshkov est le fils adoptif de l'écrivain Maxime Gorki. C'est le frère d'un grand dirigeant bolchevique. Lui-même a été bolchevique. Et puis, il est passé à l'Ouest et il est devenu officier colonel dans la Légion étrangère. Il rallie de Gaulle. Vous savez que des colonels, il n'y en a pas tellement qui rallient de Gaulle
incroyable,
à Londres à cette époque. Et Peshkov est envoyé par de Gaulle auprès de Chiang Kai-shek, avec lequel des liens de sympathie, évidemment, se nouent pendant la guerre.
Ce qui, 20 ans plus tard, ne va pas faciliter la situation, évidemment.
Non, parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, pour le général de Gaulle, Chiang Kai-shek est comme lui, la Chine et la France, dans des échelles différentes, et la France libre, font partie des pays qui sont quand même à la table des vainqueurs, aux côtés des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique. Ça fait une communauté de situation. Et de Gaulle, qui apprécie les grandes figures historiques, considère, vous savez qu'à la fin il ira même rencontrer Franco, et il considère que Chiang Kai-shek est une grande figure historique comme lui, sous-entendu.
Oui.
Donc il a du respect pour lui. Comment va-t-il essayer de faire passer la pilule de la reconnaissance de la Chine ? Il le fera en envoyant le général Peshkov à Taipei, rencontrer Chiang Kai-shek, évoquer à la chinoise des souvenirs de guerre, et puis lui dire, voilà, nous avons l'intention de reconnaître, le général a l'intention de reconnaître la Chine communiste, alors vous imaginez les hoquets de Chiang Kai-shek. qui en plus avait un dentier.
À ne pas mettre dans la copie.
Non, c'est inutile. Il lui fait une proposition que lui a évidemment imposé le général de Gaulle, qui est: que diriez-vous si la France reconnaissait la Chine avec échange d'ambassadeurs, mais si nous gardions un consulat de Taïwan, c'est-à-dire si nous ne rompions pas avec la Chine de Taïwan. Et là, Chiang Kai-shek se cabre et dit non, il n'en est pas question, c'est l'un ou l'autre, c'est la Chine communiste ou c'est la mienne, la petite Chine de Taïwan. À ce moment-là, effectivement, les jeux sont faits. Il y aura reconnaissance de la Chine populaire par la France et il y aura suppression de la représentation diplomatique. Enfin, il y aura quelque chose en sous-main qui continuera à exister, mais suppression officielle de la représentation diplomatique.
Alors, c'est très important cette question de représentation diplomatique, puisque nous avons promis d'être précis aujourd'hui. Disons bien que la France est un des premiers pays occidentaux à reconnaître la Chine et le premier à envoyer une mission diplomatique permanente, ce qu'on appelle un ambassadeur, en fait.
Exactement,
c'est ça.
Parce que la Grande-Bretagne, rappelez-vous que la Grande-Bretagne avait à l'époque Hong Kong.
Et voilà.
Et que Hong Kong, c'est juste à côté de la Chine. Il suffisait d'une petite action militaire des Chinois pour s'emparer de Hong Kong. Donc, dès 52, si mes souvenirs sont exacts, la Grande-Bretagne a reconnu la République populaire de Chine, mais sans ambassadeurs, c'est-à-dire que les contacts se font surtout à Hong Kong. Et puis il y a la Suisse qui a reconnu la République populaire de Chine, mais là aussi sans échange d'ambassadeurs, uniquement pour des raisons commerciales. Donc effectivement, la reconnaissance de la Chine par la France du général de Gaulle est un événement très important qui va porter un coup, comme souhaité par les deux parties, à la politique des blocs. Un autre élément qui rapproche la Chine de la France et réciproquement, et qui fait partie de cette sortie, cette tentative de sortie des blocs, c'est la construction d'une force de frappe nucléaire. Car la France, depuis janvier 1960, a la bombe atomique, et la Chine, avec le maître espion de Mao, Kang Sheng, qui organise des opérations secrètes pour faire revenir des savants nucléaires en Chine, la Chine est également en train de construire la bombe atomique. Donc ça crée un nouveau lien, bien entendu.
Kang Sheng, le maître espion de Mao, c'est d'ailleurs le titre d'un de vos ouvrages avec Roger Faligaud, qui en ce moment est réédité dans la collection de Poche de Perrin, c'est-à-dire chez Tempus. Alors, nous allons revenir avec vous sur toutes ces questions, Rémy Koffer, et notamment, nous allons essayer de comprendre pourquoi le général de Gaulle ne s'est pas rendu à Pékin à la rencontre de Mao. Il faudra attendre le président Pompidou des années plus tard pour que cette rencontre-là ait lieu.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
700 millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi.
Et moi, Jacques Dutronc sur Europe 1 pour cette émission consacrée à la Chine et ses relations internationales. Franck Ferrand, vous recevez Rémy Koffer, journaliste et historien et auteur du Siècle des Quatre Empereurs, paru chez Perrin.
Et les quatre empereurs en question, c'est Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, Mao Zedong, bien entendu, et Deng Xiaoping, donc les grands patrons, si je puis dire, de la Chine depuis l'écroulement de l'Empire.
Ah oui, les quatre grands dirigeants de la Chine au XXe siècle.
Nous dirons un mot tout à l'heure de Deng Xiaoping, qui a joué un rôle très important dans les relations franco-chinoises, mais un peu plus tard, bien entendu. Alors, revenons à notre époque, là, de 1964. Est-ce que Edgar Faure a été le premier Français à se rendre comme ça en Chine, en éclaireur, si je puis dire?
Auparavant, plus ou moins mandaté par le Quai d'Orsay en sous-main, vous avez le journaliste écrivain Lucien Baudard, mm-hmm. dont le père avait été consul de France en Chine, Et bon, il est parti faire une espèce de mission pour voir un petit peu en 49 ce qui se passait en Chine. Mais nous avions très peu de renseignements les uns les autres, américains compris, sur ce qui se passait en Chine populaire. Et on a mis du temps à prendre la mesure de ce grand bond en avant, parce que la Chine était complètement fermée sur elle-même. D'où l'importance des rapports personnels, des missions comme Edgar Faure.
Edgar Faure, bien sûr.
Où, alors vous aurez Mitterrand, François Mitterrand, qui ira en 61, mais on peut pas dire que ce soit en bon terme avec le général de Gaulle, évidemment, puisqu'il est dans l'opposition. Et puis, vous aurez le général Pechkov, justement, pour faire jouer ce paramètre personnel dans le rapprochement ou dans la rupture.
Alors, le général de Gaulle aurait pu, et Dieu sait qu'il en a fait, de ces grands voyages qui ont marqué le dernier tiers du XXe siècle, mais il n'a pas fait le voyage de Pékin, il n'est pas allé rencontrer Mao Zedong. C'était une volonté de sa part ?
Alors, n'oubliez pas déjà que Mao Zedong est précisément un peu mis au placard par les autres.
Le Parti communiste chinois lui-même.
Par les autres dirigeants qui se sont rendus compte du désastre humain qu'a représenté le grand bond en avant. Donc, je pense, et Chou Enlai, qui est le maître de la diplomatie, qui est un homme d'État tout à fait remarquable, très soumis à Mao, mais il a quand même accepté la politique de Liu Shaoqi et des autres, qui consiste à se dire le vieux. Il était, passez-moi l'expression, il a été bien, mais maintenant, il déraille. Donc, ils n'ont sans doute pas très envie de remettre Mao en selle. N'oubliez pas que à la mi-65, Mao, qui s'y prend évidemment, qui fait des parties de billard avec 50 bandes, va lancer la révolution culturelle pour reconquérir le pouvoir. Et sans illusion sur le prix à payer, puisque dans...
C'est peut-être aussi une des explications de l'absence de voyage du général de Gaulle, c'est que cette révolution culturelle, évidemment, va totalement de nouveau bouleverser la donne au bout de 18 mois.
Bien entendu, il y aura d'ailleurs des manifestations devant l'ambassade de France, donc la relativement nouvelle ambassade de France, où on insultera évidemment les Français, et une insulte chinoise, c'est de comparer à des chiens, ce qui provoquera ce mot du général de Gaulle, c'est la première fois que je me fais traiter de chien par des Pékinois. Donc effectivement, la révolution culturelle, Mao Tse-tung l'a décrite dans une lettre à Tianjin, sa femme, un grand chaos sous le ciel. Donc vous imaginez que c'est un désordre intégral, on ne sait même plus qui sont les interlocuteurs valables, on ne sait même plus les gens avec qui on pourra discuter. Donc alors, De Gaulle ne tient certainement pas à aller dans un capharnaüm pareil.
Un certain nombre de grands barons du gaullisme iront officiellement en Chine, avant la révolution culturelle, c'est le cas d'André Malraux quand même.
Oui, alors donc, André Malraux fait un voyage. Là aussi, c'est semi-officiel, mais il est ministre. C'est aussi parce que il traverse une phase de dépression terrible et qu'on craint qu'il se suicide. Et De Gaulle, qui a beaucoup d'amitié pour Malraux, se dit je vais l'occuper en l'envoyant en Extrême-Orient. D'où
où il avait été, n'est-ce pas, rappelons-nous, la voie royale.
Hein, oui,
40 ans plus tôt.
Il essayera le compte-rendu de l'entretien. Il a un entretien avec Mao et le compte-rendu de l'entretien est absolument sidérant parce que, par exemple, Malraux essaye de persuader Mao qu'il a joué un rôle à Canton, dans les événements de Canton qu'il décrit. Non, pas dans la condition humaine qu'il décrit dans Les Conquérants. Qu'il a joué un rôle à cette époque. Il était à Canton. Il n'a jamais foutu les pieds à Canton à l'époque. Il avait simplement été 8 jours à Hong Kong. Mais... Et bon, il lui confie la version qu'il a pour les parlementaires. Alors vous imaginez, face à Mao Tse-tung, qui n'a aucune idée de ces histoires d'élus et de députés, etc. Mais enfin, c'est un signe quand même. On sait, tout le monde sait, que Malraux, c'est quand même De Gaulle.
Alors, celui qui va populariser, si j'ose dire, la République communiste chinoise en France, c'est Alain Perfit.
Alain Perfit, aidé par le général Hérault, qui est un grand spécialiste de la Chine. Oui, effectivement, il va jouer un rôle très important pour faire connaître cette réalité chinoise qui était mais vraiment très 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 méconnu.
Je disais tout à l'heure que les Chinois nous savent gré d'avoir reconnu la République populaire, les Chinois d'aujourd'hui,
bien sûr.
Dès 1964. Ça a été très bien perçu à Pékin, bien sûr.
Oui, et d'autant plus que ça s'appuyait sur cette cette volonté de sortir commune, de sortir des blocs, donc il y avait cette absence. N'oubliez pas aussi que, pardon, ton professoral, n'oubliez pas, excusez-moi.
Non mais ça tombe bien, c'est le bon jour. C'est le jour ou jamais.
Non, justement, on va pas empoisonner les lycéens avec des histoires de profs. Mais on va leur dire que Zhou Enlai et Deng Xiaoping connaissaient la France car ils avaient vécu en France au tout début des années 20. Deng Xiaoping a même travaillé chez Renault à un certain moment. Donc, bon, ils connaissent quelques mots de français, ils ont la nostalgie de la France.
La France, c'est ce que laissait entendre tout à l'heure cet éditorialiste de l'Express, c'est que la France va quand même ouvrir un peu la voie aux États-Unis. On se rappelle évidemment la politique de Kissinger et du président Nixon d'ouverture à la Chine, 1972. En 73, c'est le président Pompidou qui se rend en Chine. J'ai des souvenirs de ce voyage en Chine qui avait été très médiatisé, si je puis dire. Et après la mort de Mao seulement, on va voir se normaliser les relations entre la France et la Chine.
Oui, parce que passé une période de flou, eh bien, c'est Deng Xiaoping qui ressort de sa boîte, parce que c'est un bonhomme, il est toujours au rancard, menacé de mort, et ressurgit. Et il reprend les leviers de commande en 78. Et là, Deng Xiaoping, c'est un grand patriote chinois. Lui, ce qu'il veut, c'est le développement de la Chine, et c'est un pragmatique. Il est communiste, d'accord, mais l'important, c'est de développer l'économie. Donc, il faut développer les relations économiques avec en particulier les États-Unis. Il y a cette photo où, lors d'un rodéo dans l'Ouest américain où il est avec un Stetson, ce qui frappera beaucoup les Américains, il a cette volonté de rapprochement pour faire du business, pour faire des affaires économiques. Mais il viendra effectivement à Paris, rencontrera le président Giscard d'Estaing. Il est à l'époque vice-ministre seulement. Et pour la petite histoire, il ramènera à Zhou Enlai, il ramènera deux caisses de croissants qui mangeront ensemble là-bas en souvenir du bon vieux temps où ils n'avaient sans doute pas les moyens de se payer souvent des croissants.
À l'époque où nous passions le bac, c'était plus facile, si je puis dire, parce qu'on était encore dans cette politique-là. Là, aujourd'hui, il faut pour nos candidats faire un gros effort d'imagination, car la Chine est devenue tout autre chose, bien que le régime officiellement soit le même. Mais ça demande effectivement de se replonger dans ce qu'était la véritable Chine populaire, si je puis dire.
Ah bah oui, l'histoire est comme ça. Ayez en tête l'idée d'un pays presque totalement fermé.
C'est ça.
Et les gens qu'on envoie comme Edgar Faure, c'est vraiment des pionniers.
Oui, vraiment. C'est donc quasiment des missionnaires, si j'ose dire. Le siècle des quatre empereurs, c'est votre ouvrage chez Perrin, à propos de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, Mao Tse-tung et Deng Xiaoping, Rémy Koffer. Et puis, votre ouvrage sur le maître espion de Mao, qui s'appelait Kang Sheng, est réédité en poche chez Tempus. Merci beaucoup.
Et on continue de réviser dans un instant sur Europe 1 avec Franck Ferrand qui vous donne les origines de l'expression « les 30 glorieuses ».
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et nous continuons nos révisions avec vous, Franck Ferrand. Vous nous expliquez aujourd'hui l'origine des 30 glorieuses, de l'expression.
Oui, c'est une expression qu'on entend beaucoup, notamment dans la bouche des journalistes, évidemment. Les 30 glorieuses, c'est une expression forgée à la toute fin des années 70 par un économiste que connaissaient bien les étudiants de l'époque, c'était Jean Fourastier. Et Jean Fourastier faisait référence, évidemment, c'est un jeu de mots si vous voulez, faisait référence aux 3 glorieuses. Les 3 glorieuses, ce sont les journées révolutionnaires de juillet 1830 qui ont vu la fuite et la chute du régime de Charles X et l'installation au pouvoir de Louis-Philippe Ier, ce qu'on appelle la monarchie donc de juillet. Ça, c'était les 3 glorieuses. Les 30 glorieuses, c'est la période de prospérité exceptionnelle qu'ont connu les pays occidentaux dans les 30 années ou dans les 3 décennies, disons plus exactement, qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale de 1945. En fait, la croissance revient véritablement en 1946. Jusqu'en 1973, avec le premier choc pétrolier, bien entendu. Plein emploi, augmentation du pouvoir d'achat, développement de la société de consommation, etc. Dites-vous qu'entre 47 et 73, le PIB, le produit intérieur brut de la France, a été multiplié par 5, avec une croissance qui atteignait facilement 5% par an, un chômage résiduel très faible, une population qui augmentait d'autant plus que c'est l'époque du baby-boom, vous savez, cette génération où on a fait beaucoup de bébés, une espérance de vie qui augmente, des mesures sociales social tous azimuts, avec notamment l'instauration d'un salaire minimum qui va devenir le SMIG. Alors, d'où tout cela vient-il ? Du plan Marshall, ne l'oublions pas, de l'aide financière des États-Unis, de nationalisation de la libération, et puis d'une chose qu'on a complètement oubliée aujourd'hui, qui s'appelle le plan et qui nous entraînerait très loin.